France Culture.
Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Guerre de l'opium, pas vous pas pris. Nous sommes tous et toutes déjà entrés dans une fumerie d'opium. Elle nous est familière avec ses dragons peints au mur, ses lampions, ses magnifiques vases et son décor tout rouge. Elle se trouve à Shanghai et s'appelle le Lotus Bleu en 1934 après s'être intoxiquée avec les cigares du pharaon. Tintin est en lutte contre l'opium dans ses aventures racontées par Hergé. Opium, une histoire médicale, économique, politique et géopolitique, l'histoire d'un imaginaire opiacé.
Dans le port de Saïgon est une jonque chinoise, mystérieuse et sournoise. On ne connaît pas son nom, mais le soir dans l'entrepont, quand la nuit se fait complice, des Européens se glissent, cherchant des coussins profonds. Opium, poison de rêve, au ciel, c'est toi qui nous élève au paradis artificiel.
Opium par Marcels, nous sommes en 1930 avec cette chanson qui nous conduit dans cet imaginaire plein d'opium. Bonjour Xavier Paulès.
Bonjour Xavier Mauduit.
Vous êtes maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes l'auteur, entre autres, de l'opium, une passion chinoise, une histoire qui s'étend du milieu du XVIIIe siècle au milieu du XXe siècle. C'est édité chez Payot. Dites-nous Xavier Paulès, il faut savoir de quoi nous parlons. Qu'est-ce que l'opium ?
L'opium est une substance qui est tirée du papaver somniferum. C'est une plante qui est de la famille du coquelicot, notre banal coquelicot. Quand la floraison a juste eu lieu, on incise la capsule du papaver somniferum, on en laisse couler le suc, on le fait sécher, et une fois séché, ceci s'appelle l'opium brut.
Voilà, ça demande un vrai savoir, hein, parce que pour aller chercher ça à cet endroit-là et savoir comment faire...
C'est du travail aussi, c'est-à-dire que c'est la culture du pavot est une activité qui nécessite beaucoup de travail. Généralement, elle est rémunératrice, mais qui nécessite énormément de travail.
Dans quels endroits du monde cultive-t-on le pavot à cette destination ?
En fait, le pavot, vous faites bien de préciser cette destination, puisqu'il est cultivé en France aussi, pour des raisons tout à fait licites, hein, puisque du pavot, on extrait notamment la morphine, hein, des fins médicales. Et ensuite, évidemment, pour des fins illicites, le pavot est cultivé aujourd'hui principalement en Afghanistan, par exemple, et dans d'autres régions du monde, où il est ensuite transformé pour donner j'ai mentionné la morphine, mais l'héroïne est aussi un produit avec des opérations chimiques assez sophistiquées, assez complexes, mais quand même indirectement tirées du pavot.
Quand on parle de pavot, d'opium, tout de suite, notre esprit regarde vers l'Asie, alors que vous nous dites, Xavier Paulès, que non, il y a quand même déjà en Europe une utilisation du pavot à des fins médicales, bien sûr.
Alors le pavot, c'est une de ces rares plantes qui fait le trajet ouest-est. C'est-à-dire que les traces archéologiques les plus anciennes du pavot qu'on connaisse, elles viennent de la région des lacs suisses. Et dans l'antiquité grecque et romaine, le pavot est très bien connu. Hein. L'opium est utilisé, d'ailleurs le mot opium vient du grec. Et c'est ensuite, plus tardivement, que l'opium va migrer vers l'est par les routes de la soie. Et notamment en Chine, il va arriver, disons, à l'époque des Tang, c'est-à-dire au tournant du 1er-2e millénaire.
Ah oui, c'est un chemin assez étonnant, hein, sur ce qu'on appelle les routes de la soie qui souvent partent d'Asie et arrivent jusqu'en Europe. Là, on a un chemin inverse avec une plante qui est déjà présente, bien sûr, dans l'Antiquité et ses remèdes sont bien connus.
Le pavot a une fortune particulière parce qu'il est associé à Déméter et en même temps d'ailleurs à Aphrodite et à Héra, mais surtout à Déméter, et sa fortune particulière tient à cette incertitude où il est. C'est tantôt une plante sauvage, une fleur sauvage, tantôt une fleur cultivée. Parce qu'il y a le pavot dont les graines sont utilisées comme les grains de sésame, mélangés au miel et donnent des gâteaux. Les gâteaux qui ont un rôle cultuel important, mais qui sont aussi des pâtisseries délicieuses. Et puis, il y a le coquelicot, c'est-à-dire celui qui apparaît en même temps que le blé pousse dans les champs. Et c'est une fleur éphémère, légère, dont le vent disperse les pétales, et qui, par conséquent, ne nourrit pas. Alors, le pavot a aussi une fonction très importante, que les Grecs connaissent bien, une autre espèce de pavot, c'est celui qui donne l'opium, qui, par conséquent, est utilisé depuis probablement l'époque minoenne, mycénienne, à des fins, donc, d'extase, de transe ou de plaisir particulier. Et il y a même un certain nombre de vases qui ont la forme du pavot et qui semblent être réservés donc précisément à cet usage de l'opium, qui ensuite va devenir très, 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 très important, très actif. Il y a un grand commerce de l'opium, en particulier en Égypte gréco-romaine.
Marcel Détienne, en 1979, sur France Culture, anthropologue, qui nous explique ici que ce pavot est associé au monde méditerranéen, avec Xavier Pollès quand même. Rappelez que c'est une jolie fleur, avant tout.
J'avais envie de le dire aussi, effectivement, quand on voit des photographies de flancs de pavots, c'est sublime. En floraison, c'est absolument extraordinairement beau.
Et puis un usage médical, parce que, bien sûr, la condamnation de la consommation de drogue est une évidence dans le cours de l'histoire. Il faut rappeler que l'utilisation du pavot à usage médical, ça c'est quelque chose que vous évoquiez avec ces traces retrouvées en Suisse. Mais c'est quoi? C'est plusieurs millénaires, hein?
Oui, c'est très ancien. Mais pour ce qui m'intéresse de plus directement, la Chine, il y aura dans un premier temps effectivement un usage qui sera exclusivement médical. Et ensuite, l'usage de plaisir va venir s'ajouter, mais pas se substituer complètement, puisque même à des époques tardives, 19e, 20e, on voit des gens qui se soignent en fumant l'opium. Et c'est pas du tout uniquement comme analgésique, puisqu'à l'époque, on n'avait pas d'aspirine ou de paracétamol. L'opium soulageait les douleurs, mais c'est aussi un principe actif que l'on utilise, par exemple, pour lutter contre la diarrhée ou contre la toux. Et c'est des choses qui sont des propriétés qui sont tout à fait avérées.
Ouais, c'est très important de le dire dès maintenant, parce que pour comprendre cette histoire de l'opium, des guerres de l'opium, des fumeries d'opium, il faut saisir aussi au niveau le plus proche de l'individu. Pourquoi il y a consommation de l'opium? Il y a plein de choses à dire, mais il y a cet aspect médical qui est là présent.
Oui, tout à fait. Et l'opium a tout à fait droit de cité dans les traités médicaux chinois, et notamment dans des périodes relativement reculées, à l'époque des Ming. À l'époque, on ne fumait pas encore l'opium. On consommait le pavot sous forme liquide ou solide. Et c'était quelque chose qui avait donc sa place dans la pharmacopée.
Liquide ou solide, c'est-à-dire?
Alors, donc j'ai arrêté l'histoire de l'opium sous sa forme brute. Donc c'est une espèce le suc séché de la capsule du pavot devient quelque chose de la consistance du mastic, de noirâtre, brunâtre. Et ceci est très pratique à transporter. C'est pas fragile, ça peut se prendre la forme qu'on veut. C'est l'opium brut. Et ensuite, donc cet opium brut, on peut en faire, on peut le consommer tel quel, sous forme solide donc. Mais on peut aussi le faire bouillir en mettant de l'eau, en filtrant, en faisant bouillir plusieurs fois. On obtient à ce moment-là une substance qui a la forme de la consistance de la mélasse et qui s'appelle l'opium préparé, qui lui peut être bu tout simplement, ou alors qui peut être, après encore une petite transformation qui cette fois-ci s'effectue par le fumeur elle-même, peut être fumé.
C'est compliqué, hein. C'est compliqué pour arriver jusqu'à la fumerie avec cette histoire de l'opium, une passion chinoise que vous faites commencer, Xavier Pollès, au milieu du XVIIIe siècle. Pourquoi à ce moment-là?
Alors, il y a quelque chose de... Je vais même remonter encore un tout petit peu en avant, en arrière plutôt. Il y a une révolution qui se produit et qui est d'une importance cruciale. Elle se produit au milieu du XVIIe siècle, dans l'archipel indonésien, on ne sait pas exactement où, on invente la consommation d'opium fumé. C'est-à-dire que dans cet archipel indonésien, on va commencer à consommer l'opium mélangé à du tabac. Ça s'appelle le madak. Et ça, c'est crucial pour deux raisons principales. La première raison, c'est que quand vous fumez l'opium, l'effet est instantané. C'est-à-dire que vous allez ressentir très rapidement le plaisir, le soulagement que l'on ressent en consommant cette substance. Alors que quand vous l'absorbiez sous forme solide ou liquide, ça prenait plus de temps. Première raison. Deuxième raison... Elle aussi cruciale, vous supprimez le risque de surdose. C'est-à-dire que si vous n'étiez pas très, très au courant ou si vous étiez maladroit, vous pouviez éventuellement, en ingérant trop d'opium, courir le risque de mourir. Ce qui est un peu gênant. Alors qu'avec la consommation d'opium sous forme fumée, ce risque est complètement évacué. Et donc, cette révolution qui se produit au milieu du XVIIe siècle va avoir des conséquences cruciales parce qu'elle va développer sur une large échelle la consommation de plaisir. Alors pourquoi est-ce que je faisais commencer mon livre un siècle plus tard? Parce qu'un siècle plus tard, on invente nouvelle invention, cette fois-ci qui a lieu en Chine du Sud, c'est l'invention de l'opium sans mélange avec du tabac. On consomme l'opium pur. Et là, c'est quelque chose qu'on connaît avec l'iconographie. Vous avez mentionné Hergé en ouverture de l'émission. C'est effectivement ce qu'on voit, la longue pipe, la lampe qui a une forme très, très spéciale, la petite aiguille pour faire chauffer l'opium. Et donc, c'est quelque chose qui va avoir beaucoup de succès. Et pour ce qui concerne la consommation massive en Chine, elle se produit sous cette forme-là.
Avec ici la pharmacopée chinoise, l'opium faisait partie de tout ce que l'on pouvait utiliser pour soigner ou soulager les gens ?
Oui, tout à fait. Je peux donner un exemple très concret. Bon, j'ai beaucoup parcouru les faits divers de la presse cantonaise dans les années 30 et j'ai constaté quelque chose de remarquable, c'est qu'au moment des épidémies de choléra, on trouvait beaucoup de morts dans les fumeries. On relevait des morts dans les fumeries. Et la raison en était très simple, c'est que c'était les gens se sentant mal, ressentant des symptômes probablement très désagréable du fait qu'ils étaient malades du choléra, leur réflexe était d'aller dans une fumerie pour tenter de se soigner et trouver un soulagement. Et il se trouve qu'un certain nombre de ces personnes meurent dans les fumeries d'opium. Donc ça montre bien que cette consommation d'opium faisait partie vraiment dans l'imaginaire collectif de la population de la pharmacopée de base. Et on trouve aussi des témoignages se trouvent dans la Chine du Nord-Ouest, des régions très reculées, très pauvres, dans laquelle les gens n'avaient que deux façons de se soigner. La première façon, c'était de boire une soupe très chaude et de se mettre sous des couvertures et de se faire transpirer pendant une nuit entière. Et la deuxième façon, c'était de consommer l'opium.
Donc, ouais, avec de la fumée, parce que chez nous, nous avons pas garder beaucoup de choses comme traitement à base de fumée. Si, les inhalations, ça fait du bien quand on a le nez congestionné. En Asie, c'est peut-être différent.
Alors, il y a davantage d'utilisation de choses sous forme de fumée, mais il y a une valorisation d'une manière générale de la fumée dans la culture extrême-orientale qui est plus forte. Certains historiens ont mis en rapport, par exemple, avec l'encens qui permet symboliquement de communiquer avec les dieux. Mais ce qu'il ne faut pas oublier en Occident, c'est que l'opium a joué un rôle également très important dans la médication, avec le laudanum, par exemple, et toutes ces substances qui sont utilisées dans des préparations liquides. Et quand vous relisez Saint-Simon, par exemple, vous voyez que la dauphine, avant de mourir, elle prend de l'opium pour essayer de soulager le mal dont elle est atteinte.
Oui, l'opium est donc quelque chose de vraiment utilisé. Oui. L'Indonésie, pour cette révolution que vous évoquiez au milieu du XVIIe siècle, avec l'opium mélangé à du tabac, très bien. La diffusion se fait par où ? C'est une diffusion, vous avez dit, ça se généralise, donc vers l'Inde, vers la Chine aussi ?
Alors, il faut voir que l'opium circule à l'époque moderne en Asie de manière significative. C'est une marchandise qui est essentiellement produite dès cette époque-là en Inde, mais pas seulement en Inde, et qui va circuler en petite quantité. C'est une marchandise très chère, qui circule donc comme un remède entre différentes zones. Et effectivement, pour simplifier, puis on a aussi assez pauvre en sources pour cette époque, mais on peut dire que la zone principale de production, c'est l'Inde, et la zone principale de consommation, c'est plutôt l'archipel indonésien sous forme de Madak. Donc vous voyez une géographie qui va considérablement évolué un siècle plus tard, puisqu'un siècle plus tard, on va basculer, l'Inde va rester la principale zone de production, et c'est la Chine qui va devenir le grand centre de consommation.
À cette carte que vous nous dressez de production et de consommation de l'opium, nous pouvons superposer la carte des dominations coloniales. À ce moment-là, comment ça se construit ici ? Alors l'Indonésie, l'Inde, la Chine, qui domine qui ?
Alors, en fait, il faut comprendre, je pense que l'aspect essentiel ici, toujours pour aller au plus simple, c'est que la colonisation en Extrême-Orient, disons l'opium est un des piliers financiers de la colonisation. Les Occidentaux vont mettre assez rapidement l'opium à ferme, c'est-à-dire que à fermer l'opium, ça veut dire que vous donnez à un marchand, généralement chinois ou un groupe de marchands, le droit de gérer un monopole de l'opium, moyennant une redevance annuelle généralement. Et c'est une opération qui n'a que des avantages pour le colonisateur, dans la mesure où c'est un impôt qui pèse pèse essentiellement sur la minorité chinoise, puisque dans la plupart des pays, je prends l'exemple de l'Indochine coloniale française, la majorité des fumeurs, enfin, il y a une très grosse surreprésentation des Chinois parmi les fumeurs, et donc cette forme d'impôt indirect pèse sur la minorité chinoise, qui est généralement quand même assez aisée, donc c'est beaucoup moins impopulaire qu'un impôt direct comme l'impôt sur le sel, qui est atrocement impopulaire, par contre, ou les impôts sur le riz. Et d'autre part, c'est un impôt qui ne nécessite absolument aucune bureaucratie, puisque vous concédez le droit à un marchand ou un groupe de marchands chinois de gérer ce monopole, et en échange, vous n'avez pas besoin de mettre sur place toute l'architecture technique pour le bouillage, enfin, et après, tout se passe tout seul. Dans un deuxième temps, plus tardivement, il va y avoir des régies, avec là, cette fois-ci, une implication directe des autorités qui vont se mettre en place, mais ça, c'est plus tardif, c'est plutôt la fin du 19e siècle.
Ah oui, quand même, hein, le colonisateur a tout intérêt à ce commerce de l'opium pour pas que nous ayons une lecture erronée de cette histoire-là. Qui consomme l'opium ?
Alors, dans les pays, c'est un élément assez caractéristique de la diaspora chinoise, de l'importance de la diaspora chinoise, en fait. La consommation d'opium sous la forme que j'ai déjà mentionnée, c'est-à-dire avec la longue pipe, bon, la consommation d'opium à la chinoise, pour aller vite, en fait, elle va se diffuser dans les pays comme l'Indochine, comme même l'Indonésie, la Thaïlande aussi, mais essentiellement d'abord dans la diaspora, et éventuellement, dans un deuxième temps, cette pratique va, déteindre, gagner les populations locales, donc les Cambodgiens, les Vietnamiens, les Laotiens. Mais il y a toujours quand même une forte surreprésentation des Chinois parmi les fumeurs.
Et c'est une consommation plutôt pour les... Ça a l'air de coûter cher, cette histoire.
Ça coûte cher, effectivement. Ça coûte surtout cher dans les régions où l'opium n'est pas produit. Alors là, il faut affiner la géographie, c'est-à-dire que quand vous habitez dans des régions montagneuses du nord du Vietnam où l'opium est assez rapidement cultivé localement, vous pouvez consommer, si vous êtes un pauvre paysan, l'opium, il pousse littéralement devant votre porte. Par contre, si l'opium est obligé de passer par les circuits légaux avec un convoyage coûteux, en passant par la bouillerie officielle, la taxation, à partir du moment où ça devient une régie à la fin du 19e siècle, là, vous avez un opium qui est extrêmement coûteux, qui devient très coûteux.
Et alors, cette passion chinoise, hein, je reprends le sous-titre de votre ouvrage à Viepolès, c'est une passion construite ? C'est une passion qui est quelque chose que l'on peut tracer sur le temps long, ou on voit vraiment quelque chose ici qui évolue nettement sur la période qui vous intéresse, hein, ce 18e, 19e siècle ?
C'est une passion qui est problématique, parce que il y a une affinité profonde, visiblement, entre la Chine et la consommation d'opium. C'est quelque chose d'amusant, d'ailleurs, parce que quand mon traducteur, le livre a été traduit en chinois, est tombé sur ce terme de passion, pour lui, il avait compris d'abord, dans un premier temps, ce terme au sens de passion christique. C'est-à-dire un instrument de souffrance pour le peuple chinois. Alors que moi, c'était pas du tout le sens que je voulais donner à cette expression en français. Je voulais donner le sens d'une affinité spécifique. Et donc, c'est un problème, parce que la raison pour laquelle les Chinois se mettent à consommer l'opium sur une échelle de plus en plus large, fin 18e siècle, début du 19e siècle, est quelque chose qu'on a du mal encore aujourd'hui à expliquer. Beaucoup d'historiens s'y sont risqués. Moi aussi, j'ai fait des tentatives d'explication, mais moi je considère que le problème n'est pas encore résolu. Et il y a des éléments qui sont mis en avant. D'abord, le fait que la Chine, à l'époque, était une société relativement riche. Il existait un pouvoir d'achat, pour employer des termes un peu prosaïques. D'autre part, il y avait une offre. Il y avait des commerçants britanniques qui étaient là et qui avaient besoin de vendre des choses aux Chinois. Mais il y a des choses plus profondes, évidemment, qui jouent. Et je pense qu'un des facteurs qui a joué, c'est l'existence du système des examens impériaux qui produisait littéralement des cohortes de gens très frustrés, très stressés par la préparation de leurs examens et tout, relativement issus des couches relativement aisées de la population, pour la plupart d'entre eux, et qui étaient donc, et ça, l'histoire sociale des débuts de la consommation d'opium en Chine tend à le montrer, et qui étaient issus donc des élites, et qui étaient très, très importants, des consommateurs importants quand même. Donc je pense que ça a pu jouer. Il y a d'autres facteurs qui ont joué également, une certaine valorisation de la fumée, notamment dans la culture populaire et la culture des élites. D'autres facteurs également, mais ça reste encore une énigme. Pourquoi est-ce que ça a tellement bien marché auprès des Chinois et pas auprès des peuples voisins?
Il y a un facteur de sociabilité, la fumerie d'opium, où on se retrouve, où on discute et on peut créer des réseaux d'ailleurs.
C'est tout à fait un des éléments que je n'ai pas mentionné du succès de l'opium, c'est effectivement une pratique généralement collective. C'est très valorisé et précisément, quand on lit les textes qui sont issus souvent indirectement des fumeurs d'opium eux-mêmes, on voit que la consommation solitaire, et regardez avec une certaine suspicion, dans la mesure où on perd le contrôle mutuel les uns des autres. On a tendance à montrer le fumeur individu qui fume dans son coin comme quelqu'un qui est devenu dépendant et qui veut le cacher aux autres. Parce que ce qu'il faut bien voir dans le système de valeur des consommateurs d'opium en Chine au fin 19e, au 20e, c'est qu'il y a le bon fumeur d'opium, celui qui profite de la vie, d'un des plaisirs de la vie, sans que ça nuise à sa santé et à sa fortune, et le mauvais qui, lui, est devenu dépendant, il a franchi ce stade de la dépendance et qui, lui, est sur une mauvaise pente très dangereuse et qui risque de menacer, enfin qui menace sa prospérité, sa santé, sa famille, etc. Et donc, le fait de consommer toujours en groupe, c'est une manière pour le groupe social des fumeurs d'opium, vous voulez, de surveiller une sorte de système de surveillance mutuelle, en fait.
Une histoire de dépendance. Alors, la dépendance du fumeur d'opium, bien sûr, à sa drogue, et puis la dépendance d'un pays à l'opium. Est-ce qu'on peut dire que la Chine est dépendante de l'opium importé?
Alors, dans un premier temps, la Chine est effectivement dépendante de l'opium importé. Dans les premières décennies du 19e siècle, c'est là où on va arriver à la situation qui va déboucher sur la première guerre de l'opium. On a une augmentation très importante des quantités d'opium produites en Inde, donc dans l'Inde qui à cette époque était donc sous domination britannique, et qui arrive dans les ports du sud de la Chine en marchandises de contrebande, mais néanmoins la contrebande est d'une échelle absolument considérable. Donc à cette époque-là, effectivement, la Chine est dépendante pour sa consommation de l'Inde, mais ça va changer assez rapidement. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, la production de pavots en Chine pour le marché chinois va se développer sur une échelle très large et progressivement l'opium chinois va supplanter l'opium indien. L'opium chinois est beaucoup moins cher que l'opium indien et au début du 20e siècle on peut dire que la consommation d'opium indien en Chine est devenue un phénomène marginal et que la Chine est entre guillemets autosuffisante en matière d'opium et de pavots.
C'est une histoire de balance commerciale aussi parce que les Britanniques aimeraient tant vendre beaucoup de choses à la Chine pour pouvoir acheter tout ce qui les intéresse. Pour les Britanniques, l'opium, c'est bien, ça leur permet de vendre à la Chine ce qu'ils n'arrivent pas à vendre autrement. C'est vrai que les grandes cotonnades, pour les Chinois, ça les intéresse pas. Tous les lainages venus d'Angleterre, ça les intéresse pas. Alors qu'est-ce qu'on peut leur vendre? Ben tiens, pourquoi pas l'opium venu d'Inde?
C'est exactement la raison pour laquelle les Britanniques vont développer la contrebande d'opium sur une large échelle au début du 19e siècle. C'est que la balance commercial est très défavorable. Les Britanniques achètent des quantités astronomiques de thé. Ils achètent également beaucoup de porcelaine, beaucoup de soieries. Et en échange, les Chinois sont très peu intéressés, comme vous l'avez bien dit, par les lainages ou les cotonnades que les Britanniques proposent. Et donc, les marchands britanniques solde la différence avec des cargaisons d'argent. Cet argent qui vient par des circuits variés de l'Amérique du Sud sous domination espagnole, donc ces doublons vont irriguer les circuits chinois, les circuits monétaires chinois pendant toute la période du début des Qing, donc disons pour simplifier le 18e siècle. Et quand on va arriver à la situation inverse, c'est-à-dire que la Chine va acheter de plus en plus d'opium, les circuits vont s'inverser. C'est-à-dire que cette fois-ci, pour acheter tout cet opium, la Chine va exporter de l'argent. Et c'est ça le point crucial qui inquiète les autorités. C'est pas tant les questions de santé publique, pour utiliser un anachronisme, c'est cette fuite de l'argent qui, à partir des années 1830, va vraiment préoccuper les autorités chinoises.
C'est suffisamment préoccupant pour écrire à la reine Victoria.
La voix du ciel et l'équité envers tous. Elle ne supporte pas que nous fassions du mal aux autres pour notre bénéfice. Sur ce point, tous les hommes sont semblables dans le monde entier. Ils chérissent la vie et haïssent ce qui met la vie en danger. Votre pays se trouve à 20 000 lieues, mais malgré cela, la voix du ciel s'applique pour vous comme pour nous, et vos instincts ne sont pas différents des nôtres. Depuis que le port de Canton a été ouvert, le commerce a prospéré. La rhubarbe, le thé, la soie sont tous des produits de valeur de notre pays sans lesquels les étrangers ne pourraient pas vivre. Mais il y a une catégorie d'étrangers malfaisants qui font de l'opium et la portent pour le vendre, incitant les sots à se détruire eux-mêmes simplement en vue d'en retirer du profit. Auparavant, le nombre des fumeurs d'opium était petit. Mais maintenant, ce vice s'est répandu partout et le poison a pénétré de plus en plus profondément. Mais notre grand empire mandchou, unifié, se considère responsable des habitudes et des mœurs de ses sujets et ne peut rester satisfait en les voyant victimes d'un poison mortel. Pour cette raison, nous avons décidé d'infliger des peines sévères aux marchands d'opium et aux fumeurs d'opium afin de mettre un terme définitif à la propagation de ce vice.
Nous étions en 1939 avec cette lettre adressée à la reine Victoria. Adressée par qui? Dites-moi, Xavier Paulès, parce que vous allez le prononcer beaucoup mieux que moi.
Lin Zexu, c'est le nom du haut fonctionnaire qui est dépêché par l'empereur Tao Guang à la toute fin des années 1830 à Canton pour mettre fin au marché de l'opium.
Et ça s'écrit Z-E-X-U. Je oui, le dis, parce que pour
les... Ça, c'est son prénom, ça. Son nom de famille, c'est Lin, L-I-N.
C'est intéressant, ce document, de voir la manière, mais extrêmement claire, d'analyser la situation vue de la Chine. Ils ont saisi ici qu'il se passait quelque chose et une vraie politique agressive de la part du Royaume-Uni.
Alors, en fait, ce n'est pas une politique délibérée du Royaume-Uni. C'est simplement la politique des marchands indépendants qui voient une opportunité de faire fortune très rapidement. Il y a un marché qui répond très bien à une offre croissante. Il y a la matière première qui est disponible facilement sur les marchés de Calcutta. Et donc, ce sont des commerçants avisés, pas très scrupuleux, qui vont voir là une occasion de s'enrichir. Les autorités britanniques sont plutôt gênées aux entournures. Bon, ce qui les arrange, effectivement, c'est que les flux d'argent se sont inversés en faveur de leurs marchands. Mais néanmoins, il y a quand même, ce qu'il faut bien imaginer, c'est qu'il y a quand même même pour l'entrée en guerre dans la première guerre de l'opium, il y a des fortes réticences dans les cercles gouvernementaux et les élites britanniques pour rentrer en guerre dans ce qui constitue effectivement indirectement une défense des intérêts des vendeurs d'opium.
Et c'est ça, cette première guerre de l'opium, c'est de dire, non, liberté du commerce, on a le droit d'aller commercer tout ce qu'on veut, même de l'opium. Pas très moral tout ça.
Alors en fait, l'opium était clairement une marchandise de contrebande. L'argumentaire très axé sur la liberté de commerce, effectivement, fait bon marché du fait que l'opium était une marchandise de contrebande depuis plus d'un siècle en Chine. Il y a des édits impériaux qui étaient très clairs là-dessus. La contrebande avait proliféré sur une vaste échelle, avec la complicité des autorités locales. Mais bon, c'était de facto, c'était une marchandise de contrebande. Et la raison pour laquelle la Grande-Bretagne va rentrer en guerre, c'est que c'est une raison un petit peu complexe, mais en fait, Lin Zexu arrive donc à Canton et il fait pression sur les marchands qui étaient présents ici pour qu'ils livrent toute leur cargaison d'opium et s'engagent par écrit à ne pas recommencer à trafiquer l'opium. Les marchands refusent et la situation est bloquée. Lin Zexu bloque complètement le commerce, ce qui est très gênant pour les autorités anglaises dans la mesure où les grosses recettes fiscales provenaient des taxes sur le thé. Et donc, c'était une situation qui n'était pas tenable très longtemps. Et donc, le représentant présent, il n'y avait pas d'ambassade à l'époque, mais disons que officieusement, celui qui faisait office d'ambassadeur, c'est-à-dire Elliot, qui était le surintendant du commerce qui était présent à Canton, il décide de débloquer la situation en demandant aux marchands d'opium de lui céder l'opium. Et donc cet opium devient une propriété de la couronne britannique. Et dans un deuxième temps, lui, il va passer cet opium à Lin Zexu, qui va le détruire. Donc le casus belli, c'est une marchandise qui était certes de contrebande, mais qui était devenue une propriété de la couronne britannique, qui a été saisie et détruite par les autorités chinoises. Et c'est à ce titre-là qu'on va rentrer en guerre.
Cette première guerre de l'opium, c'est 1839, ça se termine comment ?
Ça se termine par le fameux traité de Nankin de 1842, une défaite militaire sans appel de la Chine.
Avec ce commerce donc qui continue, c'est-à-dire que le traité de Nankin, ça signifie la possibilité pour les Britanniques de continuer le commerce de l'opium.
Alors, c'est une chose qui paraît extraordinaire, mais le traité de Nankin ne mentionne pas le mot opium. Bon, c'est un traité qui est extrêmement court, dont les principales stipulations, c'est l'ouverture de plusieurs ports, de 5 ports au lieu d'un, au commerce étranger, la cession de l'île de Hong Kong, bon, avec d'autres clauses, mais il y a un silence assourdissant sur la question de l'opium, et donc la situation dans les années suivantes va être que la consommation va continuer à augmenter, la contrebande va également continuer à augmenter, il n'y a toujours pas de statut légal de l'opium, ça reste une marchandise de contrebande.
Avec une deuxième guerre de l'opium, alors plus tard, hein, en 1856, c'est toujours l'opium qui motive l'intervention, alors pas seulement ici de l'Empire britannique. Hein.
Alors les Britanniques réalisent assez vite que le traité de Nankin a été taillé un peu court, c'est-à-dire qu'il y a... Ce n'est pas un rêve ou un mirage qui date d'aujourd'hui. Le marché chinois avait évidemment suscite bien des convoitises aujourd'hui et autant à l'époque. Et donc, on s'aperçoit que cette ouverture de 5 ports ne débouche pas sur les exportations qu'on espérait. Et d'autre part, il y a une revendication constante aussi, c'est que la Chine accepte de traiter d'égal à égal avec les puissances occidentales. La Chine avait jusqu'à présent conservé cette notion que l'empereur de Chine était supérieur à tous les monarques. Il y a cette notion de centralité et de supériorité de la Chine et que donc on ne pouvait pas traiter sur un pied d'égalité. Et donc la deuxième guerre de l'opium, ça va être aussi une des causes de cette deuxième guerre de l'opium, c'est qu'on va vouloir imposer à la Chine l'échange d'ambassades. Et donc les Britanniques vont rentrer en guerre, cette fois-ci avec l'aide des Français, pour imposer donc cette égalité. L'opium est également aussi à l'arrière-plan de la deuxième guerre de l'opium, puisque cette fois-ci, ils vont obtenir la légalisation en 1860 au traité de Pékin. L'opium va devenir, cette fois-ci, une substance légale qui pourra être taxée par les autorités.
C'est-à-dire que cette deuxième guerre de l'opium, c'est aussi une défaite chinoise. Hein.
Oui, alors en fait, l'histoire des conflits entre la Chine et l'Occident est une litanie de défaites qui s'explique par la supériorité écrasante dans le domaine militaire des puissances occidentales.
Avec cette histoire qui nous intéresse aujourd'hui, celle des guerres de l'opium, bien sûr, mais surtout celle de l'opium, une passion chinoise. Xavier Pollès, vous l'avez étudié dans le cours de l'histoire. Nous allons comprendre aussi comment se construit cet imaginaire de fascination, cet imaginaire de prohibition, de lutte contre l'opium, et puis tout simplement comment a-t-on pu construire cette figure qui nous hante encore, hein, le fumeur d'opium amaigri, qui est complètement déconnecté du monde? C'est ce que nous allons vivre dans le cours de l'histoire, direction la fumerie.
Allez, encore une petite, chérie. Crois-moi, ça te fera pas de mal. Fume encore une petite pipe. Je comprends pas, c'est un traître mot de ce qu'ils disent. Étranger ou anglais, pour moi c'est du chinois.
Ça ne veut rien dire. Tout ça ne veut rien dire.
On dit tous des trucs qui ne veulent rien dire, chérie. Quand l'opium met la main sur nous.
Le mystère d'Edwin Drood, c'est d'après le roman de Charles Dickens. Hein, c'est une série diffusée par BBC Two avec Xavier Pollès. Cet imaginaire de l'opium, présent en Chine bien sûr, mais évidemment en lien avec la puissance coloniale toute proche, parce que les Britanniques ne sont pas loin, mais la Chine demeure indépendante. Et puis avec cet imaginaire qui a un écho aussi en Europe, c'est-à-dire que l'étiquette opium est accolée à la Chine.
Oui, tout à fait. L'étiquette opium est accolée à la Chine et plus largement aussi en France, en tout cas à l'Indochine. Il y a deux canaux par lesquels cet imaginaire de la fumerie va pénétrer en Occident. Il y a d'abord la littérature coloniale, les personnes qui sont présentes donc dans les ports de l'Asie orientale, qui vont décrire abondamment les fumeries, notamment les les missionnaires qui vont beaucoup s'indigner des méfaits de l'opium et des fumeries d'opium. Mais il y a aussi quelque chose qui est moins vrai en Europe peut-être, c'est l'influence des Chinatown aux États-Unis notamment. Vous avez, disons, la visite à la fumerie d'opium du quartier chinois est un petit peu un genre littéraire à lui tout seul, avec toujours les mêmes clichés effectivement de fumeurs avachis, abrutis par la consommation, la fumée, etc. Et donc, par ces canaux-là, c'est un imaginaire qui va irriguer les mentalités occidentales, et ça n'a toujours pas disparu. On a toujours tous à peu près en tête le cliché du consommateur d'opium d'origine chinoise ou d'origine chinoise sur sa couche avec sa pipe. C'est quelque chose qu'on trouve dans une littérature aussi. Sherlock Holmes, je crois que c'est dans L'homme à la lèvre tordue, se place en observateur dans une fumerie d'opium qui est décrite aussi par le menu dans des termes généralement très sordide.
Oui, c'est ça, on a du mal à se départir de cet imaginaire-là. Avec Xavier Pollez, vos réflexes d'historien depuis le début de cette émission, vous vous appuyez sur les sources. Vous avez évoqué la presse que vous avez pu utiliser, la littérature coloniale aussi, avec toujours le biais de ce regard porté de l'extérieur. Quand on est historien de l'opium, au plus près des sources en Chine, que peut-on trouver? Y a-t-il suffisamment de sources? Parce que on évoque ici quelque chose qui est, en grande partie de son histoire, un produit clandestin.
C'est un problème. Effectivement, c'est un produit clandestin. Et même quand ça devient un produit légal en 1860, on a très peu d'archives. On n'a pas d'archives du monopole de l'opium. Tout ça reste aux mains des marchands qui ne se donnent pas la peine de conserver leurs archives. Donc, on est obligé de faire usage d'une multitude de sources. Donc, j'ai déjà mentionné la presse, qui m'a été très utile, notamment pour documenter la vie quotidienne des fumeries d'opium. Mais il faut aussi utiliser, par exemple, les correspondances diplomatiques, les revues anti-opium, qui sont parfois extrêmement factuel et donne des éléments très intéressants. Donc, en fait, il faut essayer. J'ai utilisé également l'opéra cantonais, produit des scripts qu'on peut utiliser parce que le fumeur d'opium est un personnage assez courant dans ce genre de littérature, etc., etc.
C'est valorisé dans ces documents, ces personnages-là, le fumeur d'opium dans un opéra?
Non, il faut reconnaître que le fumeur d'opium est un petit peu comme le joueur invétéré, un personnage négatif, repoussoir de ces gens-là. C'est toujours un feignant, souvent un fils de bonne famille qui ne fait rien d'autre que de rester toute la journée couché à fumer.
Et parmi les sources, il y a bien sûr les témoignages.
Inutile de dire que la faune qui s'était abattue sur Saïgon à l'époque ne s'en privait pas et que l'argent coulait à flot, comme le champagne dans les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit contrôlées, elles aussi, par une mafia intouchable qui régnait également sur la drogue et les salles de jeu. La drogue, bien sûr, c'était l'opium. Il s'en faisait à l'époque une consommation incroyable. À Cholen, la ville chinoise, les fumeries ne se comptaient plus. C'était souvent de simples pièces aux murs nus garnies de planches, devant lesquelles j'ai vu des dizaines de pauvres bougres faire la queue et attendre patiemment leur tour, avant de pouvoir, à prix d'or, s'étendre un instant et tirer sur le bambou leur petite ration quotidienne d'oubli et de rêve. Et beaucoup parmi eux y laissaient chaque soir les quelques piastres qu'ils avaient durement, péniblement gagnés pendant le jour. C'est ainsi que, me promenant dans Cholen, je n'eus qu'à entrer dans la première clinique venue pour saisir sur le vif ce moment de délice éphémère où la précieuse petite boule brunâtre grésille sous la flamme et où, aspiré par le fumeur à l'autre extrémité du long tuyau de bambou, il y a pour un instant, un court instant, un homme heureux.
Vous venez ici tous les jours?
Tous les jours.
Tous les après-midi?
Tous les après-midi.
Oui, c'est un peu monotone. Ça ne vous ennuie pas à la longue?
Si, ça m'ennuie.
Ça vous ennuie, et pourtant vous venez.
Oui, pourtant vous venez, c'est une habitude.
Samy Simon, journaliste, une voix de la radio aussi, qui évoque ses souvenirs en 1966 avec une fumerie d'opium et le témoignage qu'il collecte. Xavier Paulès, vous aussi, le témoignage vous a été utile?
Oui, alors le témoignage, vous voyez, mentionne Cholon, le quartier chinois, enfin la ville chinoise, comme centre principal de concentration de fumerie d'opium. Donc on voit bien le fait que la pratique a pénétré en Indochine par le biais de la diaspora chinoise. Donc on a, ça c'est un cliché de la littérature coloniale qu'on retrouve décliné à l'infini, chez Claude Farrère par exemple aussi, c'est la fumerie d'opium bouge, où des coulis, des pauvres travailleurs viennent se droguer, dépenser tout leur pauvre argent durement gagné et se trouvent réduits à l'état de squelette par la consommation d'opium. Bon, je nie pas le fait que ça ait pu exister, effectivement, mais c'est un des aspects de la consommation. Il existe des fumeries de quartier, comme je l'ai montré dans mon livre, ou un peu comme le bistrot d'à côté, vous allez consommer tranquillement votre opium de temps en temps pour vous offrir un moment de détente sans être forcément du tout dépendant. Et il y a aussi des fumeries de luxe, même de grand luxe, dans lesquelles on peut consommer un opium de très grande qualité avec un matériel très raffiné, dans un cadre somptueux, etc. etc. Il y a une échelle de mode de consommation, enfin, disons, une très grande variété de lieux et de modes de consommation.
Ce qui est sûr, c'est que pour les autorités chinoises, c'est de l'argent perdu, hein. C'est de l'argent qui sort s'il faut l'acheter à l'extérieur. Et puis, c'est aussi une forme de dépendance du pays. Et puis, pour la population, vous l'avez dit, Xavier Paulès, le terme de santé publique est anachronique. Mais enfin, pour la population, ça peut conduire à de véritables ravages. Donc, il y a une lutte quand même contre cette drogue. Ce n'est pas valorisé. On le sent bien sur cette longue histoire de la part des autorités chinoises.
Peut-être, faut-il être plus nuancé. Dans la mesure où la consommation d'opium est vue à partir de 1860 comme un mal nécessaire, c'est-à-dire que il n'y a plus d'effort d'éradication de la consommation d'opium pendant une cinquantaine d'années après 1860, on en tire des recettes fiscales non négligeables, et donc même si l'opium reste considéré comme une pratique honteuse, les autorités en font leur profit. Et justement, ça correspond à une époque où la Chine, qui avait traditionnellement une pression fiscale très faible, c'est-à-dire qu'un des principes du bon gouvernement, c'était qu'on devait prélever le moins d'impôts possible. Et le problème, c'est que pour faire face à la pression des puissances occidentales, il faut développer des arsenaux, une industrie, il faut aller payer des techniciens occidentaux très cher pour qu'ils viennent vous apprendre les techniques de production des armes. Donc tout ça coûte horriblement cher et il faut inventer de nouveaux impôts, il faut réinventer la fiscalité. Et à ce titre-là, l'opium est un des canaux qui va être utilisé pour financer cette politique de modernisation. Et donc, voilà, la position des autorités est un petit peu ambiguë. À partir de 1906, on va rebasculer vers une politique, effectivement, où là, on va vouloir se débarrasser de l'opium avec ce qui s'appelle le plan de 10 ans, qui va donner de très bons résultats, où on va renoncer aux revenus de l'opium, on va s'attaquer avec beaucoup d'efficacité à la consommation. Et là, effectivement, c'est une nouvelle période qui commence.
Cette nouvelle période commence pour nous avec l'opium de Brigitte.
Dans le port de Saïgon est une jonque chinoise, mystérieuse et sournoise, dont on connaît pas le nom. Et le soir dans l'entrepont, quand la nuit se fait complice, les Européens se glissent, cherchant des coussins profonds. Opium, poison de rêve, fumée qui monte au ciel, c'est toi qui nous élève au paradis artificiel. Je vois le doux visage, les yeux de mon aimé. Par toi, j'ai son image dans ton nuage fumé. À l'abri du demi-jour, les lanternes qui se voilent sont de petites étoiles qui pâlissent tour à tour. Et le soir au parfum lourd, au gré de la fumée lente, le fumeur se représente les plus beaux rêves d'amour. Opium, poison de rêve, fumée qui monte au ciel, c'est toi qui nous élève au paradis artificiel. Je
les années 1930, mais au goût du jour, par le duo Brigitte dans Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Riyad Kera et préparée par Thomas Beau, avec aujourd'hui la technique François Saint-Jour. Aujourd'hui dans Le cours de l'histoire, Opium, Pavot, Papri, Xavier Paulès. 1906, nous dites-vous, c'est un changement de politique, il y a une lutte contre l'opium. Si nous mettons un petit peu de politique dans notre fumerie d'opium, on a du nationalisme ici.
Oui, c'est la fin du 19e siècle. Dans les élites proto-nationalistes chinoises, va s'enraciner rapidement l'idée qu'une des causes fondamentales de la faiblesse de la Chine, c'est la consommation d'opium. Et à partir de ce moment-là, les élites chinoises vont se convaincre de ça et vont faire pression sur la dynastie des Qing, la dernière dynastie chinoise, pour qu'elle adopte une politique de prohibition, ce que la dynastie va faire à partir de 1906.
Ah, c'est intéressant ça, de voir comment, pour expliquer la position de la Chine dans le monde au même moment, l'opium est un argument pour dire la décadence. Mais ça signifie que la décadence, en fait, vient de l'extérieur. Quelque part, elle nous a été imposée par les autres puissances.
Alors, il y a cette idée qui arrive à cette époque que les guerres de l'opium ont été vraiment une guerre pour imposer l'opium. Et même cette idée fallacieuse que l'opium a été un poison instillé sciemment par les Occidentaux pour affaiblir la Chine et pour pouvoir la servir. Évidemment, on a expliqué déjà dans le début de l'émission que c'était simplement, il n'y avait pas de plan d'affaiblissement de la Chine. Il y avait simplement des marchands très avides et qui voulaient s'enrichir sur le dos du consommateur chinois. Et donc, mais néanmoins, cette idée commence à s'enraciner et donc la dynastie va décider de s'attaquer à la consommation d'opium à partir de ce plan de 10 ans qui, j'en profite pour le souligner, est un remarquable succès. Il ne faut surtout pas imaginer cette dynastie chinoise des Qing qui va s'écrouler donc en 1911-1912 comme une dynastie qui s'écroule sous le poids de ses propres insuffisances et de sa propre sclérose. En fait, au contraire, dans la dernière décennie de son existence, c'est l'excès de radicalisme des réformes qu'elle va engager, c'est ce qu'on appelle les nouvelles politiques, Xinjiang, qui va lui causer sa perte. Et le plan anti-opium est un exemple, parce que ce plan, il va donner des très bons résultats, mais il va affaiblir fiscalement la dynastie, il va obliger à trouver d'autres recettes fiscales qui vont aggraver l'impopularité de la dynastie.
La dynastie des Qing qui s'écrit avec un Q, faut le rappeler, hein, parce que quand on recherche après, on est perdu. Xavier Paulès, vous êtes l'auteur de La République de Chine, Histoire générale de la Chine, 1912-1949, c'est publié aux Belles Lettres. Donc 1911-1912, c'est la fin de la dynastie et la République poursuit cette politique de lutte contre l'opium.
Les premières années de la République, notamment à l'époque du dictateur Yuan Shikai, donc jusqu'au milieu des années 1910, va poursuivre effectivement cette politique décidée contre l'opium et les résultats vont continuer à être excellents. Et à partir du moment où le pouvoir central va progressivement se déliter, à partir de la deuxième moitié des années 1910, vous allez avoir des hommes forts locaux, qu'on appelle les seigneurs de la guerre, qui vont ressusciter les circuits de l'opium pour en tirer des recettes fiscales.
Oui, parce que c'est ici qu'une autre espèce d'individu louche intervient, ce sont les mafieux. Il y a une mafia chinoise et la contrebande se poursuit. Faire une lutte contre l'opium, c'est également mener une lutte contre les mafias.
Oui, vous avez tout à fait raison. Les circuits de l'opium sont très largement contrôlés par différentes mafias. Bon, alors l'exemple le plus célèbre, c'est à Shanghai. Vous avez la Bande Verte qui se fait une spécialité d'acheminer l'opium depuis les régions de production jusqu'au marché de Shanghai, de le bouillir, de le distribuer dans les fumeries, de racketter les fumeries d'opium. Mais dans d'autres régions de Chine, il y a également d'autres sociétés secrètes qui se livrent au même genre d'activité.
Et puis alors là, bien sûr, société secrète, Chine, milieu du XXe siècle, les années 1930 surtout, évidemment, direction le Lotus Bleu.
Sachez d'abord que vous êtes ici au quartier général des Fils du Dragon, société secrète dont le but est la lutte contre l'opium qui fait, vous le savez, d'énormes ravages dans le monde entier, et particulièrement ici.
Hélas, oui, je le sais.
Notre plus puissant adversaire est un Japonais. Et ce Japonais, vous le connaissez, c'est Mitsuhirato.
Mitsuhirato ? Mais est-ce possible que...
Voyez-vous, monsieur Tintin, dans tous les pays, il y a des hommes qui, poussés par l'appât du gain, n'hésitent pas à tourner les règlements et à enfreindre les lois les plus sacrées de la vie en société. Peut-être un jour trouvera-t-on des moyens plus efficaces que la prison pour éclaircir leur vue et libérer leur esprit dévoyé.
En tout cas, monsieur Wang, à nous d'agir comme si cela était possible. Mais votre but immédiat est la lutte contre une bande malfaisante, je suis des vôtres.
Ah, merci. Et votre compagnon à quatre pattes sera le bienvenu parmi nous.
Merci, monsieur.
Une adaptation radiophonique des aventures de Tintin en 1962. C'était sur France Culture et Riyad Gara qui réalise l'émission à midi. On fait un bisou à Milou. N'oublions pas Milou dans cette histoire-là. Xavier Pollès, document historique, bien sûr, les aventures de Tintin. L'évocation du Japon dans ce document, c'est intéressant aussi.
J'ai admiré le français très châtié de Monsieur Wang. Hergé donne vraiment le mauvais rôle aux Japonais en matière de trafic d'opium dans le Lotus Bleu, ce qui ne doit pas nous induire en erreur, en fait, parce que les Japonais ont pris leur part de trafic des stupéfiants, notamment dans le nord-est de la Chine, puisqu'ils utilisaient le principe d'extraterritorialité, c'est-à-dire qu'un ressortissant japonais qui était pris à trafiquer l'opium par les autorités chinoises était livré à son consul, qui devait le juger et qui, en généralement, ne faisait rien d'autre que de le relâcher aussi. Mais néanmoins, à l'époque, les grands, la plupart du trafic de l'opium, il est aux mains de Chinois, il est régularisé, enfin il a un statut légal, les autorités en tirent des recettes fiscales, les sociétés secrètes chinoises sont très impliquées, donc faire des Japonais les uniques propagateurs de l'opium dans les années 1930, c'est un raccourci assez contestable.
Mais il n'y a pas de consommation d'opium au Japon. Ah, il y a ce jeu aussi de comparaison et de rivalité entre la Chine et le Japon qui fait de l'opium consommé en Chine un élément de décadence quand le Japon, lui, depuis l'ère Meiji, se rapproche de l'Occident.
Oui, c'est exactement ça. Les Japonais observent très tôt, dès la première guerre de l'opium, ils observent les progrès de l'opium en Chine, ils observent la défaite de la Chine en 1842 et ils en concluent qu'il ne faut surtout pas que le Japon cède à la tentation de l'opium. Et donc, dès cette époque, les Japonais vont se persuader qu'il ne faut pas faire comme les Chinois et l'opium, la consommation d'opium va être toujours très mal vue et ne va jamais empiéter sur les populations japonaises, même dans les... Il y avait des Chinois au Japon, à Yokohama, mais contrairement à d'autres pays d'Asie orientale, la consommation ne va pas passer dans la population japonaise du tout. Et même à des époques très tardives, on est surpris de voir les consommateurs japonais, par exemple, horrifiés quand ils voient la composition de certains médicaments et voient des produits qui viennent de l'opium, qui sont issus de l'opium. Donc il y a vraiment, dans l'imaginaire collectif japonais, effectivement, une révulsion pour l'opium qui est particulièrement prononcée.
Avec les difficultés auxquelles est confronté l'historien Xavier Pollès, la proximité du sujet. Vous avez visité des fumeries d'opium, ça existe toujours ou pas ?
Alors pour trouver des fumeries d'opium aujourd'hui, c'est pas simple. Je suppose qu'il doit en exister encore dans des pays comme l'Iran. C'est ce qu'on m'avait dit certaines personnes, mais ça fait déjà quelques années, donc je sais pas si c'est toujours d'actualité. Mais ce qu'il faut dire, c'est que l'opium, c'est quand même la drogue de papa. C'est une drogue dont on a un petit peu dit le mode de production, le mode de consommation. C'est compliqué, c'est délicat, c'est long, c'est fastidieux par rapport à des drogues que je qualifierais de plus efficaces qu'on a aujourd'hui, comme la cocaïne, sans parler de toutes les drogues de synthèse dont on dispose. L'opium, c'est vraiment la drogue de papa.
Vous voulez dire que dans le déclin de la consommation de l'opium, il y a la lutte des autorités contre l'opium, mais il y a aussi des phénomènes de mode?
Oui, je pense que l'opium, bon, pour les raisons liées au nationalisme chinois, à l'essor du nationalisme chinois que j'ai mentionné principalement, mais aussi pour des raisons de mode entre guillemets, est devenu dans les années 1920 à 1930 déjà quelque chose de jugé, dépassé, condamnable. Il y a eu ce que j'appellerais une déglamourisation de l'opium. L'opium qui était quand même associé dans les premières décennies de son arrivée en Chine à un mode de vie luxueux pour la simple raison que c'était une marchandise très chère.
Ouais, c'est l'efficacité aussi de la diffusion des images du fumeur d'opium tout à fait amaigri, là, en haillons. Et puis, autre difficulté pour l'historien, c'est comment les autorités se sont saisies de cette histoire-là. Vous nous l'avez bien dit, c'est début 20e siècle, en 1906, que la dynastie Qing lutte contre l'opium. La République, quand elle se met en place, donc 1911-1912, j'imagine, reprend cette histoire et dit, ben non, c'est grâce à nous, c'est pas ceux d'avant. Ceux d'avant étaient complètement drogués et puis décadents, c'est grâce à nous. Et j'imagine que c'est pareil en 1949, quand les communistes arrivent, ils disent, ben non, mais avant, ils fumaient de l'opium et puis c'est grâce à nous qu'on n'en fume plus.
C'est vrai que le plan de 10 ans est remarquablement... Ils ont passé sous silence pendant la période républicaine, la plupart du temps. Les autorités républicaines mettent en avant leurs propres efforts à partir du milieu des années 1930. Le Kuomintang, donc, qui a pris le pouvoir, qui maîtrise le pouvoir central depuis le gouvernement de Nankin, au milieu des années 1930, va lancer à son tour un plan, cette fois-ci le plan de 6 ans, qui va obtenir aussi un certain nombre de résultats et qui va donc se targuer de lutter avec sincérité contre l'opium et d'obtenir des résultats remarquables, résultats qui sont un peu moins impressionnants que ceux de la dynastie des Qing. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est que sous la République, il n'y a jamais eu de retour à une consommation aussi massive qu'elle l'était au tout début du XXe siècle ou à la toute fin du XIXe siècle. On est dans une pratique déjà déclinante. Les gens consomment moins qu'une trentaine d'années, une quarantaine d'années auparavant. Et quand les communistes arrivent à leur tour, au début des années 1950, ils vont s'attaquer à leur tour à la consommation d'opium. En fait, la consommation d'opium était déjà très largement déclinante, confinée à des parties de la population pauvre, relativement âgée. Donc ils vont taper très fort, efficacement, avec une politique qui va, elle, être axée uniquement sur l'offre. C'est-à-dire qu'on va arrêter les contrebandiers, on va les sanctionner très durement. Il va y avoir pas mal de condamnations à mort qui vont être prononcées. Et on va obtenir donc l'éradication assez rapide de la consommation, au prix aussi, évidemment, des libertés individuelles. C'est parce qu'on a une société où les individus sont étroitement encadrés et donc le parti contrôle tout. Donc dans ces conditions-là, évidemment, c'est beaucoup plus facile d'obtenir la suppression de pratiques telles que la consommation d'opium, de drogue ou les jeux de hasard.
Xavier Pollès, l'opium, une passion chinoise. Vous nous l'avez dit, votre ouvrage a été traduit en chinois. Vous avez eu des retours. Quelle est la réception d'un tel ouvrage ?
Alors, la réception académique est nulle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de compte-rendu dans les revues chinoises d'histoire.
Pourquoi ?
C'est à peu près... c'est-à-dire que c'est une histoire qui s'écrit toujours selon la ligne très officielle. Donc, il faut absolument que les Occidentaux soient responsables de tous les malheurs de la Chine. Il faut absolument que le Parti communiste ait réussi un miracle extraordinaire au début des années 1950. Il faut surtout pas nuancer l'impact social de l'opium comme je le fais en montrant qu'il y a une variété de consommation très grande. Donc, en fait, tout ce que j'écris va très largement, dans une très large mesure, à l'encontre de la doxa, qui est donc que j'ai esquissé. Donc ça explique très largement pourquoi est-ce que les universitaires chinois soient embarrassés pour lire et commenter ce livre. Par contre, quand on va voir les réseaux sociaux, ça c'est un peu plus intéressant, les réactions du grand public sont assez nuancées. Il y a des gens qui considèrent que de toute façon, quand on est un Français, on comprend rien à Chine, donc on peut jeter le livre à la poubelle directement. Et il y a des gens qui sont beaucoup plus ouverts et qui considèrent qu'effectivement, la doxa officielle, le discours officiel mérite d'être réexaminé sérieusement et que l'opium a eu un impact beaucoup plus nuancé que ça sur l'histoire chinoise pendant 2 siècles.
Et puis ça leur permet de comprendre à quoi servait cette longue pipe qu'ils retrouvent au fond d'un tiroir, celle de papy et la petite aiguille qui va avec. Ben voilà, comme ça, on peut lire ça. Merci beaucoup Xavier Paulès. Hein, l'opium, une passion chinoise et puis la République de Chine, cette histoire générale de la Chine que vous publiez aux Belles Lettres. Merci beaucoup à vous d'être venu dans le cours de l'histoire.
Merci Xavier Mauduit.
On a commencé l'émission avec des coquelicots, on la termine avec des coquelicots.
J'ai descendu dans mon jardin
pour y cueillir du romarin. Gentil coquelicot, mesdames, gentil coquelicot nouveau.
Lucienne Vernet, les quatre barbus avec leurs coquelicots dans le cours de l'histoire, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Jeanne Copé, Raphaël Lalong, Chloé Rouillon, Emma Youen Guizu. Le cours de l'histoire écouté à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.